Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Yémen, l'ONU pourrait prendre le contrôle du port stratégique d'Hodeïda dans l'ouest du pays. C'est en tout cas la proposition faite aujourd'hui par l'émissaire des Nations Unies. Il était sur place. Explication avec Valérie Crova. Le Brexit serait-il désormais suspendu au sort de l'enclave britannique de Gibraltar au sud de l'Espagne? C'est en tout cas sur ce point de négociation que semble désormais s'arc-bouter Madrid, qui entend bien jouer sa partition d'ici au sommet extraordinaire de dimanche à Bruxelles. Correspondance dans ce journal de Marie-Hélène Ballestero. Le mouvement des Gilets jaunes, l'acte 2 de la mobilisation, se prépare en France. Ce sera demain à Paris le point d'orgue de cette semaine de mobilisation, tandis qu'en Belgique, la mobilisation se confirme aussi, reportage de Pierre Benazé. Et puis l'enquête de cette édition, signée ce soir Frédéric Mettezo, sur les mouvements de l'ultra-droite en France. L'enjeu crucial de l'égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes. La Tunisie pourrait être prochainement le tout premier pays arabe à revenir sur une des règles coraniques les plus controversées et les plus anachroniques, celle consacrant l'inégalité des héritiers. Le président tunisien Bedjik Caïb Essebsi veut faire évoluer les choses, quitte à prendre de grands risques politiques. En dépit des résistances très fortes des mouvements islamistes, il présente aujourd'hui au ministre son projet de loi sur l'égalité dans l'héritage. Reportage de notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier.
Bedjik Caïb Essebsi, 91 ans, veut marquer l'histoire, devenir l'homme qui aura réussi à établir l'égalité homme-femme en matière d'héritage dans un pays arabe. Aujourd'hui, un frère hérite en général du double que sa sœur, selon les règles coraniques. L'égalité dans l'héritage, c'est sans doute la question la plus sensible parce qu'elle touche à la religion, mais aussi au pouvoir économique. En clair, les hommes n'ont aucun intérêt à voir se modifier la règle. Alors, pour réussir, le président propose dans son projet que l'égalité devienne la norme, mais que ceux qui voudront y déroger pourront le faire par le biais d'un acte notarié. Yusra Frawes est présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle en attendait plus, certes, mais...
Quand la loi donne un droit par une main et l'enlève par une autre main, ça le vide de tout son sens. Et donc on a peur, mais en même temps, on sait très bien que l'héritage c'est le bastion du patriarcat. Donc du moment où on fait bouger les lignes, ça va changer la société. Donc on est peut-être plus que pragmatique, on obtiendra le maximum de ce qu'on peut avoir avec nous, lutte acharnée depuis toujours pour cette égalité et nous continuons jusqu'à l'égalité parfaite.
Si le président a dû édulcorer son projet, c'est parce que la loi doit maintenant être validée par le Parlement. Les islamistes d'Ennahda, plutôt hostiles au projet, y sont majoritaires. Le président assure vouloir avancer rapidement. Le vote devrait intervenir ces prochains mois déjà.
Maureen Mercier, à Tunis. Au Yémen, l'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, était sur la ligne de front aujourd'hui à Hodeïda, ville et port stratégique de l'ouest du Yémen. Comme le pays tout entier, la région est coupée en deux entre insurgés pro-iraniens et forces pro-gouvernementales. Depuis le port, principal point d'entrée de l'aide humanitaire, l'émissaire de l'ONU a appelé les belligérants à maintenir la trêve actuelle et à protéger les civils en perspective de long terme d'hypothétiques négociations politiques. Et sur sa feuille de route, la possibilité d'une supervision du port directement par l'ONU. Les explications de Valérie Crova.
C'est depuis la ville stratégique d'Hodeïda qui focalise toute l'attention de la communauté internationale que l'émissaire des Nations Unies a lancé un nouvel appel à la poursuite de la trêve. Les deux camps qui se livrent une guerre impitoyable depuis bientôt 4 ans ont accepté de faire taire leurs armes il y a 10 jours. De violents combats se sont toutefois déroulés en début de semaine entre les rebelles houthis et la coalition placée sous commandement saoudien. La trêve est donc fragile et Martin Griffiths espère la voir se consolider. Il souhaite également que l'ONU joue un rôle de premier plan dans la gestion du port d'Hodeïda par lequel transite 75% de l'aide humanitaire au Yémen où 14 millions de personnes vivent en situation de quasi-famine. Martin Griffiths tient aussi à réunir les belligérants autour d'une même table. L'émissaire des Nations Unies est venu au Yémen dans le but de préparer des négociations de paix qu'il espère organiser d'ici la fin de l'année en Suède.
Valérie Crova, au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées aujourd'hui dans un attentat suicide au nord-ouest du Pakistan. L'attaque s'est produite dans les zones tribales frontalières de l'Afghanistan. Un peu plus tôt, 4 personnes, 2 policiers et 2 civils ont été tué dans la plus grande ville du pays, Karachi. Il s'agissait là d'une attaque du consulat de Chine par des hommes armés. Elle a été revendiquée, cette attaque, par un groupe séparatiste baloutche qui qualifie Pékin d'oppresseur. En Afghanistan, ce sont deux figures du soulèvement contre le régime syrien en 2011, également opposées aux djihadistes, qui ont été tués ce vendredi dans la province d'Idleb. Les deux militants ont été tués par balle par des inconnus dans la ville de Kaframbel, a indiqué sur sa page Facebook la radio Fraîche, fondée en 2013 par l'une des deux victimes. En Europe, Madrid fait monter la pression dans la perspective du sommet extraordinaire de Bruxelles, dimanche, consacré au Brexit. Après la résolution, tant bien que mal, des problèmes posés par la frontière intérieure irlandaise, c'est désormais Gibraltar et sa situation particulière qui pose problème. Le gouvernement central espagnol exige des garanties de dernière minute sur le sort de l'enclave britannique. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Madrid pour France Culture. Il ne faut pas surévaluer, bien sûr, la menace de Pedro Sanchez, mais le Premier ministre espagnol menace de s'opposer à tout accord s'il n'obtient pas un droit de veto sur les négociations futures concernant Gibraltar.
C'est bien ça. Et comme vous le disiez, les heures passent et la tension monte. Alors certes, on semble voir un petit peu de lumière au bout du tunnel, mais pour l'instant, eh bien, l'Espagne tient toujours tête. Alors pourquoi ? Car au cours des dernières heures, aussi bien les négociateurs des 27 États membres de l'Union européenne que le Royaume-Uni de son côté ont fait des déclarations allant dans le sens de Madrid, mais pour l'Espagne, eh bien, ce n'est pas encore suffisant. Le gouvernement de Pedro Sanchez réclame un engagement écrit de la part de Londres. Nous avons exigé que ce texte soit publié par les Britanniques avant le sommet, a déclaré aujourd'hui à Bruxelles le secrétaire d'État espagnol aux affaires européennes, Luis Marco Aguiriano. Alors, d'intenses négociations sont toujours en cours cet après-midi afin de trouver une solution in extremis. Rappelons que l'Espagne menace de bloquer cet accord sur le Brexit dimanche prochain si elle n'obtient pas noir sur blanc un droit de veto sur les négociations futures concernant Gibraltar. Alors même si, selon des experts, l'Espagne ne dispose pas de droit de veto sur l'accord de Brexit, il s'agit d'un grand pays. L'Espagne est un grand pays au sein de l'Union européenne. C'est la quatrième puissance économique de la zone euro. Et si elle vote non dimanche prochain à Bruxelles, eh bien cela risquerait de poser un véritable problème politique car l'Union européenne voulait à tout prix parvenir à un consensus.
Merci Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Une motion de censure déposée contre le gouvernement tchèque par l'opposition a échoué cet après-midi de 9 voix. Le Premier ministre Andrei Babiš accusait d'avoir essayé d'entraver une enquête pour fraude qui le vise jouer son avenir politique. Il risque plusieurs années de prison s'il était reconnu coupable dans cette affaire. À la veille de la grande mobilisation française des Gilets jaunes à Paris, sur laquelle nous allons revenir dans un instant, c'est en Belgique que de nombreux mécontentements se sont exprimés aujourd'hui et d'ailleurs depuis plusieurs jours, opérations de blocage notamment à Bruxelles et en Wallonie autour du dépôt pétrolier de Feluy par exemple dans la province du Hainaut belge. On est là à mi-chemin entre la frontière française et Bruxelles. Depuis le début de la semaine, ce site de Feluy a été le théâtre de débordements nocturnes marqués par des accrochages avec la police fédérale qui a interpellé déjà une quarantaine de personnes. En Belgique comme en France, les moyens de mobilisation sont les mêmes, les revendications sont très larges et les souffrances qui s'expriment sont à peu près les mêmes. Reportage de Pierre Benazé.
À Feluy, les quelques gilets jaunes encore présents la journée ont remplacé dans le calme les manifestants violents de la nuit. Si les gilets jaunes de la journée déplorent les débordements nocturnes, ils estiment, comme Christophe, employé communal, que la mobilisation manque surtout de soutiens extérieurs.
Les syndicats dépendent des politiques, donc forcément je ne les vois pas bouger plus. Ici c'est bien justement que ce soit un acte citoyen, parce que je pense que c'est ça qui peut marquer le coup. Il faut vraiment montrer son ras-le-bol, il faut montrer sa colère.
Les manifestants de la nuit ont incendié un camion-citerne lundi soir. Ce n'est pas un mode d'action que comprend Gracielle, mère de 5 enfants, mais elle espère que la mobilisation des Gilets jaunes aura des suites.
Je suis maman, je suis là pour mes enfants et mes petits-enfants, pour leur avenir. Le système, tout est pourri, il n'y a plus rien qui va. Il serait temps de faire quelque chose, augmenter nos salaires, faire quelque chose, parce que c'est plus possible. J'ai plus confiance en personne, moi.
Plusieurs retraités sont présents, comme Louis, et pour lui, comme pour d'autres, le prix de l'essence n'est pas la seule raison du mouvement de contestation.
On paye, et tout coûte de plus en plus cher, parce que c'est la boule de neige. Alors maintenant, c'est l'augmentation des prix des médicaments, on n'a plus de médicaments. On n'a jamais vu que ça en Belgique.
Une demi-douzaine de blocages sont recensés en Belgique sur des bretelles d'autoroute, des ronds-points ou des parkings de supermarchés. Tout s'y déroule dans le calme, mais la police fédérale se tient prête en cas de nouveaux débordements nocturnes.
Pierre Benazé, en France, c'est demain le grand jour attendu des gilets jaunes, et notamment à Paris. Et là aussi, l'exécutif se prépare à une mobilisation importante. Près de 3000 policiers seront déployés dans la capitale. Et pour essayer de contenir une mobilisation qui ne semble pas faiblir, le président de la République a annoncé aujourd'hui qu'il présentera de nouvelles mesures en début de semaine prochaine. En attendant, un certain nombre d'élus de l'opposition appellent Emmanuel Macron à revoir sa position sur la hausse des taxes actuelles et à venir. C'est le cas notamment du député Les Républicains Gilles Carrez, ex-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, car selon lui, si le président de la République reste inflexible, ce mouvement des Gilets jaunes rebondira immanquablement et durera dans les semaines et les mois à venir.
Nous sommes en overdose fiscale. Les ménages ont subi une augmentation de plusieurs dizaines de milliards de prélèvements obligatoires depuis 2011.
C'est la droite qui avait commencé.
Elle a commencé en 2011. Mais derrière, François Hollande, il s'est éclaté. Donc on aurait pu penser que depuis la victoire d'Emmanuel Macron, les impôts allaient refluer. C'est le contraire. Moi, j'ai regardé dans le détail les plus et les moins, les impôts qui montent, les impôts qui descendent. Il y a une hausse. Et donc, comme par ailleurs, il y a une augmentation incessante de toutes les réglementations, les 80 km/h, les contrôles techniques, enfin, les gens ont le sentiment d'être littéralement oppressé, harcelé. Et donc, comme on est dans ce contexte de ras-le-bol fiscal, réglementaire, de contraintes, à chaque nouvelle hausse, puisqu'ils ont eu vraiment la folie de voter une augmentation des taxes sur les carburants sur plusieurs années, jusqu'en 2022, ce qui est insensé, eh bien, dès lors qu'il y aura par exemple une nouvelle flambée du cours du pétrole, immédiatement ça repartira. Parce que le contexte fiscal, d'oppression réglementaire, il est éruptif aujourd'hui.
Gilles Carrez au micro de Stéphane Robert. Et justement, même s'il est bien difficile d'en tirer des conclusions, l'OPEP annonce cet après-midi envisager une baisse de la production de pétrole dans l'objectif de faire remonter des cours jugés par les pays producteurs un peu trop faibles ces jours-ci. La culture accessible à tous, cultiver autant qu'informer et divertir. La mission du service public de l'audiovisuel est depuis longtemps bien affirmée, mais depuis ce matin, elle franchit encore un nouveau cap. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Vous étiez au lancement officiel d'une nouvelle offre culturelle de l'audiovisuel public. Ça va s'appeler Culture Prime. C'était ce matin le lancement officiel. Radio France, aux côtés des autres entreprises de l'audiovisuel public, fait la proposition de parler culture selon les canons actuels de diffusion, notamment auprès des jeunes, avec de courtes vidéos, avec des messages avec des durées réduites, des messages qui sont destinés aux réseaux sociaux pour ne pas les laisser à la vulgarité et à la haine.
Effectivement, alors cette nouvelle offre, ça n'est pas une radio, ça n'est pas une télévision, ça n'est pas non plus un site internet, c'est un réseau social de la culture. Explication avec le copilote de Culture Prime, Michel Field.
Ce sera visible sur Facebook et très vite sur YouTube, Instagram, Snapchat, etc. De petits sujets qui mêlent l'image, le son, le texte sur la culture et qui proviennent des 6 grandes institutions de l'audiovisuel public. C'est des sujets qui sont créés ex nihilo, j'allais dire, avec les ressources propres à chacune de nos maisons, qui sont à la fois la découverte d'artistes, la découverte de phénomènes culturels, et puis aussi une sorte d'analyse de l'actualité, par exemple politique ou sociale, par le prisme et par le biais de la culture.
Alors sur Culture Prime, on peut notamment découvrir en moins de 2 minutes que pour son Moonwalk, Michael Jackson s'est en fait inspiré du mime Marceau. Ces modules courts ne coûtent rien de plus à l'État, rigueur budgétaire oblige. France Prime est donc lancé sans moyens humains ou économiques supplémentaires, mais pour Sybille Veil, PDG de Radio France, la contrainte peut être créatrice.
On engage aujourd'hui dans des trajectoires d'économie qui sont très fortes, qui ne nous permettent pas de mettre des moyens supplémentaires, mais qui nous obligent en revanche à redéployer vers ce dans quoi on croit. Et ce dans quoi on croit, c'est qu'il faut qu'on innove dans les formats et dans les écritures pour continuer à intéresser et à capter l'attention des Français, quels qu'ils soient.
Il s'agit donc de faire plus avec autant, être à la fois modeste et ambitieux. La PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, espère ainsi attirer vers le service public de nouvelles populations.
Peut-être les jeunes publics qu'on touche moins au travers de nos antennes traditionnelles, qu'elles soient radio ou télé d'ailleurs. On a besoin de retisser un lien avec ces publics. Et puis aussi tous les gens qui se disent oh, « ça, c'est pas pour moi ». Qui ont le sentiment que voilà, la culture est loin, inaccessible. C'est pour ça qu'on va faire des modules qui sont parfois drôles, parfois très émouvants, parfois très intellectuel, pour essayer de susciter la curiosité et que quelqu'un se dise « Ah bah tiens, finalement, si, ça m'intéresse, et je vais aller creuser, je vais aller voir, soit en écoutant une émission de radio, soit en regardant une émission de télé, enfin, qu'on suscite la curiosité. »
Et à l'inverse, les radios et les télévisions publiques ainsi que l'INA relayeront sur les réseaux sociaux les contenus produits par Culture Prime. Cette nouvelle offre va donc pouvoir s'appuyer sur les 80 millions de fans Facebook et 35 millions d'abonnés que compte l'audiovisuel public.
Merci beaucoup Antoine Marette. 18h15, la suite du journal de France Culture avec l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France. Bonsoir Frédéric Mettezeau. Voilà, Frédéric Mettezeau, ce soir vous vous intéressez au réseau d'ultra-droite en France. Trois de ces réseaux ont été démantelés depuis juin 2017. Le dernier, c'était en novembre, quand 23 personnes ont été mises en examen. 9 d'entre elles sont actuellement en détention provisoire. Frédéric, que sait-on précisément de cette mouvance ?
Alors, ils seraient un millier à constituer un noyau dur. Leur nombre est stable, mais ces militants seraient beaucoup plus belliqueux depuis les attentats islamistes à partir de 2015. Nous avons eu accès au dossier de l'enquête sur le groupe AFO pour Action des Forces Opérationnelles. 10 individus mis en examen pour terrorisme. Le chef présumé est un policier à la retraite. On trouve aussi 2 anciens militaires, dont un qui a servi en Afghanistan. Pour Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, les groupe d'ultra-droite cherche à recruter ce genre de profil.
Est apparu il y a quelques années une sous-catégorie qui est le militaire qui s'est trouvé engagé sur un théâtre d'opération extérieur, donc en OPEX, et qui, revenu de Bosnie, revenu d'Afghanistan, revenu du Sahel, a quand même, contre l'islam en général, un certain nombre de préventions, voire de comptes à régler.
Et qui sait aussi manier les armes et les explosifs. 2 membres d'AFO ont fait leurs emplettes à la Bourse aux armes de Ciney en Belgique, c'est l'une des plus grandes en Europe. Ils ont testé des grenades artisanales en forêt, en Bourgogne et dans le Cher. Le groupe envisageait aussi d'assassiner 200 imams et d'empoisonner de la nourriture halal dans les supermarchés. Preuve que la menace est réelle, estime Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur et ancien directeur général de la DGSI.
Ces groupuscules s'entraînent, s'organisent, se préparent. Et au travers d'entraînements qui tournent autour du survivalisme, ça leur donne l'occasion d'entraînements, mais qui parfois sont effectués avec des armes. Et puis pour certains groupes, il faut le dire, ce sont même des explosifs qui ont été testés.
Alors Frédéric, Laurent Nunez vient de parler de survivalisme. De quoi s'agit-il ?
Alors venu des États-Unis, le survivalisme combine écologie radicale et vie en autarcie. Voilà pourquoi le site AFO, le site internet, proposait des fiches pratiques pour se constituer une trousse de premiers secours, savoir réagir en cas d'attentat ou bien en cas d'arrestation. Certains militants d'ultra-droite ont même créé ce qu'ils appellent des îlots blancs, des sortes de villages pour, je cite, les Français de souche. Stéphane François du laboratoire Groupe Société Religion Laïcité du CNRS nous détaille leur feuille de route.
Acheter des terres à un corps de ferme. Équiper ce corps de ferme de façon à qu'elle soit autonome. Panneaux solaires, éoliennes pour avoir l'électricité, de l'eau chaude, des pompes. Après, des réserves évidemment de nourriture. Des terres pour un jardin, des animaux. Après, il y a constitution d'un stock d'armes et d'une armurerie. On est quasiment dans un univers à la Mad Max.
Et il existe de tels îlots blancs en Bretagne et en Bourgogne. Plusieurs identitaires souhaiteraient aussi en installer en Champagne et en Picardie.
Alors quelles sont les références intellectuelles, culturelles de ces militants d'ultra-droite, Frédéric ?
Ils lisent le magazine Réfléchir et Agir, 5000 exemplaires diffusés par numéro, des identitaires comme Philippe Vardon ou Guillaume Faye, ou des auteurs plus connus du grand public comme Éric Zemmour, Laurent Oberton ou Renaud Camus. Bachar el-Assad, Vladimir Poutine ou Viktor Orban sont leurs héros contemporains.
Et alors la question qui vient naturellement, c'est celle-ci. Ces groupes sont-ils vraiment dangereux ?
Alors il y a quand même pas mal d'amateurisme chez eux. Tiens, prenez AFO, Benoît. Comment empoisonner de la nourriture halal quand elle est emballée ? Les militants d'AFO n'utilisaient pas non plus de messagerie cryptée. Mais on apprend aussi que 2 membres du groupe, dont l'ancien militaire ayant servi en Afghanistan, étaient plus radicaux. Ils trouvaient leur comparse trop mou, trop craintif. Voilà pourquoi les autorités restent très vigilantes. Au ministère de l'Intérieur, on craint toujours un scénario à la Anders Breivik.
Oui, du nom du terroriste norvégien auteur des attentats d'Oslo et d'Utøya, qui avait fait 77 morts en 2011. Merci Frédéric Mettezo. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Le temps demain sera marqué par une amélioration au sud. Il restera humide au nord, d'après les prévisions de Météo France. Ce soir, néanmoins, le département du Var, comme celui du Gard, est placé en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Par ailleurs, attention à la neige sur les reliefs, avec notamment dans les Alpes un risque d'avalanche élevé, notamment dans les versants ombragés d'altitude. Côté température, les minimales seront comprises entre 0 et 8 degrés demain matin, et au plus chaud de la journée, on comptera entre 7 et 15 degrés du nord au sud.